Crime et châtiment, troisième partie. Chapitre 1. Raskolnikov se leva à demi et s'assit sur le divan. Il invita par un léger signe Razoumikine à suspendre le cours de son éloquence consolatrice. Puis, prenant par la main sa mère et sa sœur, il les contempla alternativement durant 2 minutes, sans proférer un mot. Son regard, empreint d'une sensibilité douloureuse, avait en même temps quelque chose de fixe et d'insensé. Pulchérie Alexandrovna s'en effraya et se mit à pleurer. Avdotia Romanovna était pâle. Sa main tremblait dans celle de son frère. « Retournez chez vous. Avec lui, » dit-il d'une voix entrecoupée en montrant Razoumikine. « À demain. Demain, tout. » Depuis quand êtes-vous arrivé?
Nous sommes arrivés ce soir, Rodia,
répondit Pulchérie Alexandrovna. Le train était fort en retard, mais, Rodia, pour rien au monde, je ne consentirai à me séparer de toi maintenant. Je passerai la nuit ici, auprès de...
Ne me tourmentez pas, répliqua-t-il avec un geste d'irritation.
Je resterai avec lui, dit vivement Razoumikine. Je ne le quitterai pas une minute, et que mes invités aillent au diable. Qu'ils se fâchent si bon leur semble. D'ailleurs, mon oncle est là pour faire fonction d'amphitryon.
Comment vous remercier?
Commença Pulchérie Alexandrovna, en pressant de nouveau les mains de Razoumikine. Mais son fils lui coupa la parole.
Je ne puis pas,
répétait-il d'un ton agacé. Ne me tourmentez pas.
« Assez, allez-vous-en, je ne puis pas. »«
Retirons-nous, maman, » fit à voix basse Dounia inquiète. « Sortons de la chambre au moins pour un instant. Il est évident que notre présence le tue. »«
Et il ne me sera pas donné de passer un moment avec lui, après une séparation de 3 ans ?»
gémit Pulchérie Alexandrovna.
« Attendez un peu, » leur dit Raskolnikov. Vous m'interrompez toujours, et je perds le fil de mes idées. Avez-vous vu Lougine?
Non, Rodia, mais il est déjà instruit de notre arrivée. Nous avons appris, Rodia, que Pierre Petrovitch avait eu la bonté de venir te voir aujourd'hui, ajouta avec une certaine timidité Pulchérie Alexandrovna.
Oui, il a eu cette bonté. « Dounia, j'ai dit tantôt à Lougine que j'allais le jeter en bas de l'escalier, et je l'ai envoyé au diable. »«
Rodia, que dis-tu? Vraiment, tu... Ce n'est pas possible !» commença la mère, saisie d'effroi. Mais un regard jeté sur Dounia la décida à n'en pas dire davantage. Avdotia Romanovna, les yeux fixés sur son frère, attendait qu'il s'expliquât plus longuement. Déjà informée de la querelle par Nastasia qu'il la leur avait racontée à sa façon et comme elle avait pu la comprendre, les deux dames étaient en proie à une cruelle perplexité.
« Dounia, » poursuivit avec effort Raskolnikov, « je ne veux pas de ce mariage. Par conséquent, donne congé dès demain à Lougine et qu'il ne soit plus question de lui.
« Mon Dieu !» s'écria Pulchérie Alexandrovna.
« Mon frère, pense un peu à ce que tu dis !»
observa avec véhémence Avdotia Romanovna. Mais elle se contint aussitôt.
« Tu n'es peut-être pas, en ce moment, dans ton état normal. Tu es fatiguée »
acheva-t-elle doucement.
« J'ai le délire ? Non. Tu épouses Lougine à cause de moi. Mais je n'accepte pas ce sacrifice. Donc demain, écris-lui une lettre pour te dégager vis-à-vis de lui. » Tu me la feras lire dans la matinée, et ce sera fini.
« Mais je ne puis faire cela !» s'écria la jeune fille blessée.
« Et de quel droit ?»«
Dounetchka, toi aussi tu t'emportes ?
Cesse, demain.
Est-ce que tu ne vois pas ?» balbutia la mère avec effroi en s'élançant vers sa fille.
Ah, « Allons-nous-en, cela vaudra mieux. »
Il bat la campagne, se mit à crier Razoumikine d'une voix qui trahissait l'ivresse. Autrement, est-ce qu'il se serait permis?
Demain, il sera raisonnable. Mais aujourd'hui, en effet, il l'a mis à la porte. Le monsieur s'est fâché. Il pérorait ici. Il étalait ses théories. Tout de même, il est parti la queue basse.
Ainsi, c'est vrai ? S'écria Pulchérie Alexandrovna.
À demain, frère ! Dit d'un ton de compassion Dounia.
Partons, maman. Adieu, Rodia.
Il fit un dernier effort pour lui adresser encore quelques paroles. Tu entends, ma sœur, je n'ai pas le délire. Ce mariage serait une infamie. Que je sois infâme, toi du moins tu ne dois pas l'être. C'est assez d'un. Mais, quelque misérable que je sois, je te renierais pour ma sœur si tu contractais une pareille union. Ou moi, ou Lougine. Allez-vous-en.
Mais tu as perdu l'esprit ? Tu es un despote ! Vociféra Razoumikine.
Raskolnikov ne répondit pas. Peut-être n'était-il plus en état de répondre. À bout de force, il s'étendit sur le divan et se tourna du côté du mur. Avdotia Romanovna regarda curieusement Razoumikine, ses yeux noirs étincelèrent. L'étudiant tressaillit même sous ce regard. Pulchérie Alexandrovna paraissait consternée.
« Jamais je ne pourrai me résoudre à m'en aller !» murmura-t-elle avec une sorte de désespoir à l'oreille de Razoumikine. « Je resterai ici quelque part. Reconduisez Dounia. »
« Et vous garderez toute l'affaire !» répondit sur le même ton bas le jeune homme hors de lui.
« Sortons du moins de la chambre !»
« Nastasia, éclaire-nous !»«
Je vous jure, » continua-t-il à demi-voix lorsqu'ils furent dans l'escalier, « que tantôt il a été sur le point de nous battre, le docteur et moi. Comprenez-vous cela ? Le docteur lui-même ! D'ailleurs, il est impossible que vous laissiez Avdotia Romanovna loger seule dans ce garni. Songez un peu dans quelle maison vous êtes descendue. Ce coquin de Pierre Petrovitch n'aurait-il pas pu vous trouver un logement plus convenable ? Du reste, vous savez, j'ai un peu bu, et voilà pourquoi mes expressions sont un peu vives. Ne faites pas attention.
Eh bien, reprit Pulchérie Alexandrovna, je vais aller trouver la logeuse de Rodia, et je la prierai de nous donner, à Dounia et à moi, un coin pour cette nuit. Je ne puis l'abandonner en cet état. Je ne le puis pas.
Cette conversation avait lieu sur le palier, devant la porte même de la logeuse. Nastasia se tenait sur la dernière marche avec la lumière. Razoumikine était extraordinairement animé. Une demi-heure auparavant, quand il avait reconduit Raskolnikov chez lui, il bavardait outre mesure, comme lui-même le reconnaissait. Mais il avait la tête fort libre, nonobstant l'énorme consommation de vin qu'il avait faite dans la soirée. Maintenant, il était plongé dans une sorte d'extase, et l'influence capiteuse de la boisson agissait doublement sur lui. Il avait pris les deux dames, chacune par une main, les haranguait dans un langage d'une désinvolture étonnante, et sans doute, pour les mieux convaincre, appuyait presque chaque mot d'une formidable pression sur les phalanges de ses interlocutrices. En même temps, avec le plus grand sans-gêne, il dévorait des yeux Avdotia Romanovna. Parfois, vaincues par la douleur, les pauvres femmes essayaient de dégager leurs doigts emprisonnés dans cette grosse main osseuse, mais ils n'en avaient cure et continuaient de plus belle à leur serrer les mains sans songer qu'il leur faisait mal. Si elle lui avait demandé, comme un service à leur rendre, de se jeter la tête la première en bas de l'escalier, il n'eût pas balancé une seconde à satisfaire leur désir. Pulchérie Alexandrovna sentait bien que Razoumikine était fort excentrique et surtout qu'il avait une poigne terrible. Mais, tout à la pensée de son Rodia, elle fermait les yeux sur les façons bizarres du jeune homme qui était maintenant une providence pour elle. Quant à Avdotia Romanovna, bien qu'elle partageât les préoccupations de sa mère et qu'elle ne fût pas naturellement craintive, cependant c'était avec surprise et même avec une sorte d'inquiétude qu'elle voyait se fixer sur elle les regards enflammés de l'ami de son frère.
n'était la confiance sans bornes que les récits de Nastasia lui avaient inspirée à l'égard de cet homme singulier, elle n'aurait pas résisté à la tentation de s'enfuir en entraînant sa mère avec elle. D'ailleurs, elle comprenait aussi qu'en ce moment, elle ne pouvait se passer de lui. La jeune fille fut, du reste, grandement rassurée au bout de 10 minutes. Dans quelques dispositions d'esprit que se trouva Razoumikhine, un des propres de son caractère était de se révéler tout entier à première vue, de sorte qu'on savait bien vite à qui l'on avait affaire. « Vous ne pouvez pas demander cela à la logeuse, c'est le comble de l'absurdité » répliqua-t-il vivement à Pulchérie Alexandrovna. « Vous avez beau être la mère de Rodia, si vous restez, vous allez l'exaspérer, et alors Dieu sait ce qui arrivera. Écoutez, voici ce que je propose. Nastasia va le veiller pour le moment, et moi, je vous ramènerai toutes deux chez vous, car ici, à Pétersbourg, il est imprudent à deux femmes seules de s'aventurer la nuit dans les rues. Après vous avoir reconduite, je reviendrai en deux temps ici, et dans un quart d'heure, je vous donne ma parole d'honneur la plus sacrée que je viendrai vous faire mon rapport, vous dire comment il va, s'il dort, etc. Ensuite, écoutez. Ensuite, je courrai jusqu'à mon logement. Il y a du monde chez moi. Mes invités sont tous ivres. Je prendrai Zosimov. C'est le médecin qui soigne Rodia. Il est chez moi en ce moment, mais il n'est pas ivre, lui. Il ne boit jamais. Je l'amènerai auprès du malade et de là chez vous. Dans l'espace d'une heure, vous recevrez donc deux fois des nouvelles de votre fils. Par moi d'abord, et puis par le docteur lui-même, ce qui est autrement sérieux. S'il va mal, je vous jure que je vous ramènerai ici. S'il va bien, vous vous coucherez. Moi, je passerai toute la nuit ici dans le vestibule. Il ne le saura pas, et je ferai coucher Zosimov chez la logeuse pour l'avoir sous la main en cas de besoin. En ce moment, je crois, la présence du docteur peut être plus utile à Rodia que la vôtre. Ainsi, retournez chez vous. Quant à loger chez la propriétaire, c'est impossible. Moi, je le puis, mais pas vous. Elle ne consentirait pas à vous donner asile, parce qu'elle est sotte. Si vous voulez le savoir, elle m'aime. Elle serait jalouse d'Avdotia Romanovna, et de vous aussi, mais à coup sûr d'Avdotia Romanovna. C'est un caractère tout à fait étrange, tout à fait. Du reste, je suis moi-même un imbécile. Allons, tenez, vous avez confiance en moi, n'est-ce pas ? Avez-vous confiance en moi, oui ou non ? Partons, maman, dit Avdotia Romanovna. Ce qu'il promet, il le fera certainement. C'est à ses soins que mon frère doit la vie. Et si le docteur consent, en effet, à passer la nuit ici, que pouvons-nous désirer de mieux ? Voilà, vous me comprenez, parce que vous êtes un ange, s'écria Razoumikhine avec exaltation. Partons. Nastasia, monte tout de suite en haut et reste là auprès de lui avec de la lumière. Je reviens dans un quart d'heure. Bien qu'elle ne fût pas encore pleinement convaincue, Pulchérie Alexandrovna ne fit plus d'objection. Razoumikhine prit les deux dames chacune par un bras et, moitié de gré, moitié de force, leur fit descendre l'escalier. La mère n'était pas sans inquiétude. « Assurément, il sait se remuer, et il est bien disposé pour nous. Mais peut-on compter sur ses promesses dans l'état où il se trouve ?» Le jeune homme devina cette pensée. « Ah, je comprends. Vous me croyez sous l'influence de la boisson, » dit-il, tandis qu'il arpentait le trottoir à grands pas, sans remarquer que les deux dames pouvaient à peine le suivre. « Cela ne signifie rien, c'est-à-dire, j'ai bu comme une brute, mais il ne s'agit pas de cela. Ce n'est pas le vin qui m'enivre. Dès que je vous ai aperçu, j'ai reçu comme un coup sur la tête. Ne faites pas attention. Je dis des sottises, je suis indigne de vous. Je suis au plus haut degré indigne de vous. Dès que je vous aurai remise à domicile, j'irai au canal, ici, près. Je me verserai 2 seaux d'eau sur la tête, et il n'y paraîtra plus. Si vous saviez seulement comme je vous aime toutes deux, ne riez pas et ne vous mettez pas en colère. Fâchez-vous contre tout le monde, mais pas contre moi. Je suis son ami, et par conséquent le vôtre. Je le veux. » Je pressentais cela. L'an dernier, il y a eu un moment... Mais non, je ne pressentais rien du tout, attendu que vous êtes, pour ainsi dire, tombé du ciel. Mais je ne dormirai pas de toute la nuit. Ce Zosimov craignait tantôt qu'il ne devint fou. Voilà pourquoi il ne faut pas l'irriter.
« Que dites-vous ? »
s'écria la mère. « Est-il possible que le docteur lui-même ait dit cela ? » demanda Avdotia Romanovna, effrayée. « Il l'a dit, mais il se trompe. Il se trompe complètement. Il avait aussi donné un médicament à Rodia, une poudre, je l'ai vu. Mais sur ces entrefaites, vous êtes arrivée. Et vous auriez me fait de n'arriver que demain. Nous avons eu raison de nous retirer. Dans une heure, Zosimov lui-même viendra vous donner des nouvelles de sa santé. Il n'est pas ivre, lui, et moi j'aurais cessé de l'être. Mais pourquoi me suis-je ainsi échauffée ? Parce qu'ils m'ont fait discuter, les maudits. Je m'étais juré de ne plus prendre part à ces discussions. Ils disent de telles balivernes. Un peu plus, j'allais me colter avec eux. J'ai laissé mon oncle chez moi pour présider la réunion. Eh bien, le croiriez-vous ? Ils sont partisans de l'impersonnalité complète. Pour eux, le suprême progrès, c'est de ressembler le moins possible à soi-même. Il nous a plu, à nous autres Russes, de vivre des idées d'autrui, et nous en sommes saturés. Est-ce vrai ? Est-ce vrai ce que je dis ? Cria Razoumikine en serrant les mains des deux dames. « Oh, mon Dieu, je ne sais pas !» dit la pauvre Pulchérie Alexandrovna. « Oui, oui, quoique je ne sois pas d'accord avec vous sur tous les points !» ajouta d'un ton sérieux Avdotia Romanovna. À peine venait-elle de prononcer ces mots qu'il lui échappa un cri de douleur provoqué par un énergique shake-hand de Razoumikine.
« Oui, vous dites oui ?» « Eh bien, après cela, vous êtes... »
vociféra le jeune homme transporté de joie.
« Vous êtes une source de bonté, de pureté, de raison et de perfection. Donnez-moi votre main. Donnez. Vous aussi donnez-moi la vôtre. Je veux vous baiser les mains, ici, tout de suite, à genoux. »
Et il s'agenouilla au milieu du trottoir, qui, par bonheur, était désert en ce moment.
« Assez, je vous prie, que faites-vous ? »
s'écria Pulchérie Alexandrovna, alarmée au dernier point.
« Levez-vous, levez-vous !»
dit Dounia, qui riait, mais ne laissait pas d'être inquiète, elle aussi.
« Jamais de la vie, pas avant que vous m'ayez donné vos mains. Là, maintenant c'est assez. Me voilà relevée, marchons. Je suis un malheureux imbécile, indigne de vous, et en ce moment... Pris de boisson, je rougis. Je suis indigne de vous aimer, mais s'incliner, se prosterner devant vous, est le devoir de quiconque n'est pas une brute complète. Aussi me suis-je prosterné. Voici votre demeure, et déjà, rien que pour cela, Rodion a bien fait tantôt de mettre à la porte votre Pierre Petrovitch. Comment a-t-il osé vous loger dans ce garni ? C'est scandaleux. « Savez-vous quelle espèce de gens habitent là ? Et vous êtes sa fiancée ?
Oui ?
Eh bien, je vous déclare qu'après cela, votre futur époux est un drôle. »«
Écoutez, monsieur Razoumikine, vous oubliez... » commença Pulchérie Alexandrovna.
« Oui, oui, vous avez raison, je me suis oubliée. J'en ai honte, » s'excusa l'étudiant. « Mais vous ne pouvez pas m'en vouloir de mes paroles. J'ai parlé ainsi parce que je suis franc, et non parce que... ce serait ignoble. En un mot, ce n'est pas parce que je vous... je n'ose achever. Mais tantôt, lors de sa visite, nous avons tous compris que cet homme n'était pas de notre monde. Allons, assez. Tout est pardonné. N'est-ce pas ? Vous m'avez pardonné. Eh bien, marchons. « Je connais ce corridor, j'y suis déjà venu. Tenez, ici, au numéro 3, il s'est passé un scandale. Où logez-vous ici ? Quel numéro ? 8 ? Alors vous ferez bien de vous enfermer pour la nuit.
ne laissez entrer personne. Dans un quart d'heure, je vous apporterai des nouvelles. Et une demi-heure plus tard, vous me verrez revenir avec Zosimov. Adieu, je me sauve. »
Mon Dieu, Dounetchka, que va-t-il advenir ? Dit anxieusement Pulchérie Alexandrovna à sa fille.
Tranquillisez-vous, maman, répondit Dounia en se débarrassant de son chapeau et de sa mantille.
Dieu lui-même nous a envoyé ce monsieur.
Quoiqu'il vienne de prendre part à une orgie, on peut compter sur lui, je vous l'assure. Et tout ce qu'il a déjà fait pour mon frère.
Ah, Dounetchka, Dieu sait s'il reviendra. Et comment ai-je pu me résoudre à quitter Rodia? Combien peu je m'attendais à le trouver ainsi. Quel accueil il nous a fait! On dirait que notre arrivée le contrarie.
Des larmes brillaient dans ses yeux.
Non, ce n'est pas cela, maman. Vous ne l'avez pas bien vu. Vous pleuriez toujours. Il a été très éprouvé par une grave maladie. Voilà la cause de tout.
Ah, cette maladie! Qu'arrivera-t-il de tout cela?
Et comme il t'a parlé, Dounia, reprit la mère.
Elle cherchait timidement à lire dans les yeux de sa fille. Mais déjà elle était à demi consolée, parce que Dounia prenait la défense de son frère, et par conséquent lui avait pardonné.
« Je sais bien que demain il sera d'un autre avis, » ajouta-t-elle, voulant pousser son enquête jusqu'au bout.
« Et moi, je sais bien que demain il dira encore la même chose, à ce sujet. » répliqua Avdotia Romanovna. La question était si délicate à traiter que Pulchérie Alexandrovna n'osa pas poursuivre l'entretien. Dounia alla embrasser sa mère. Celle-ci, sans rien dire, la serra avec force dans ses bras. Ensuite elle s'assit et attendit, dans des transes cruelles, l'arrivée de Razoumikhin. Elle suivait d'un œil timide sa fille, qui, pensive et les bras croisés, se promenait de long en large dans la chambre. C'était chez Avdotia Romanovna une habitude d'aller ainsi d'un coin à l'autre quand quelque chose la préoccupait. Et en pareil cas, sa mère se gardait bien de la troubler dans ses réflexions. Razoumikhin, pris de boisson et s'amourachant à brûle-pourpoint d'Avdotia Romanovna, prêtait assurément au ridicule. Toutefois, en contemplant la jeune fille, maintenant surtout que, rêveuse et attristée, elle se promenait, les bras croisés, dans la chambre, beaucoup, peut-être, aurait excusé l'étudiant, sans même qu'il fût besoin d'invoquer à son profit la circonstance atténuante de l'ivresse. L'extérieur d'Avdotia Romanovna méritait d'attirer l'attention. Grande, forte, remarquablement bien faite, elle trahissait dans chacun de ses gestes une confiance en elle-même, qui d'ailleurs n'ôtait rien ni à la grâce ni à la délicatesse de ses mouvements. Son visage ressemblait à celui de son frère, mais on pouvait dire d'elle que c'était une beauté. Ses cheveux châtains étaient un peu plus clairs que ceux de Rodion. La fierté se lisait dans le regard brillant de ses yeux presque noirs, qui témoignaient aussi, par moments, d'une bonté extraordinaire. Elle était pâle, mais sa pâleur n'avait rien de maladif. Son visage rayonnait de fraîcheur et de santé. Elle avait la bouche assez petite, sa lèvre inférieure, d'un rouge vif, se projetait un peu en avant, de même que le menton. Cette irrégularité, la seule qu'on remarqua dans ce beau visage, lui donnait une expression particulière de fermeté et presque de hauteur. Sa physionomie était, d'ordinaire, plutôt grave et pensive qu'enjouée. En revanche, quel charme n'avait pas cette figure habituellement sérieuse quand un rire gai et juvénile venait l'animer. Razoumikhin n'avait rien vu de pareil. Il était ardent, sincère, honnête, quelque peu naïf, avec cela fort comme un ancien preux et très échauffé par le vin. Dans ces conditions, le coup de foudre s'explique parfaitement. De plus, le hasard voulut qu'il aperçut pour la première fois
Dounia dans un moment où la tendresse, la joie de revoir Rodia, avait en quelque sorte transfiguré les traits de la jeune fille. Ensuite, il la vit superbe d'indignation devant les ordres insolents de son frère, et il ne put y tenir. Du reste, il avait dit vrai, quand, dans ses propos d'homme ivre, il avait tantôt laissé entendre que l'excentrique logeuse de Raskolnikov, Praskovy Pavlovna, serait jalouse non seulement d'Avdotia Romanovna, mais peut-être de Pulchérie Alexandrovna elle-même. Bien que cette dernière eût 43 ans, elle conservait encore des traces d'ancienne beauté. En outre, elle paraissait beaucoup plus jeune que son âge, particularité souvent observée chez les femmes qui ont gardé jusqu'aux approches de la vieillesse la lucidité de l'esprit, la fraîcheur des impressions, la pure et honnête chaleur du cœur. Ses cheveux commençaient déjà à blanchir et à devenir rares. De petites rides se montraient depuis longtemps autour de ses yeux. Les soucis et les chagrins avaient creusé ses joues. Malgré tout, son visage était beau. C'était le portrait de Dounetchka, avec 20 ans de plus et sans la saillie de la lèvre inférieure qui caractérisait la physionomie de la jeune fille. Pulchérie Alexandrovna avait l'âme tendre, mais elle ne poussait pas la sensibilité jusqu'à la sensiblerie. Naturellement timide et disposée à céder, elle savait pourtant s'arrêter dans la voie des concessions, dès que son honnêteté, ses principes et ses plus chères convictions lui en faisaient un devoir. Juste 20 minutes après le départ de Razoumikine, 2 coups légers furent frappés à la porte. Le jeune homme était de retour. « Je n'entrerai pas, je n'ai pas le temps », se hâta-t-il de dire quand on lui eut ouvert. « Il dort comme un bienheureux. Son sommeil est le plus tranquille du monde. Et Dieu veuille qu'il dorme ainsi 10 heures. Nastasia est auprès de lui. Elle a ordre de rester là jusqu'à ce que je revienne. Maintenant, je vais chercher Zosimov. Il viendra vous faire son rapport. Et ensuite, vous vous coucherez, car je vois que vous tombez de fatigue. » À peine avait-il prononcé ces mots qu'il prenait sa course à travers le corridor. Quel jeune homme déluré et dévoué! S'écria Pulchérie Alexandrovna, toute joyeuse. Il paraît avoir une excellente nature, répondit avec une certaine chaleur Avdotia Romanovna, et elle recommença à se promener de long en large dans la chambre. Environ 1 heure plus tard, des pas retentirent dans le corridor, et l'on frappa de nouveau à la porte. Cette fois, les 2 femmes attendaient avec une entière confiance l'exécution de la promesse faite par Razoumikine. Il revint en effet, accompagné de Zosimov. Ce dernier n'avait pas hésité à quitter immédiatement le banquet pour aller visiter Raskolnikov. Mais ce ne fut pas sans peine qu'il se décida à se rendre chez les dames, car il n'ajoutait guère foi aux paroles de son ami, qui lui paraissait avoir laissé une partie de sa raison au fond des verres. Du reste, l'amour-propre du docteur ne tarda pas à être rassuré, et même flatté. Zosimov comprit qu'il était effectivement attendu comme un oracle. Pendant les 10 minutes que dura sa visite, il réussit à tranquilliser pleinement Pulchérie Alexandrovna. Il témoigna le plus grand intérêt pour le malade, tout en s'exprimant avec un sérieux et une réserve extrême, comme il sied à un médecin de 27 ans, appelé dans une circonstance grave. Il ne se permit pas la plus petite digression hors de son sujet, et ne manifesta pas le moindre désir d'entrer en relation suivie avec ses interlocutrices. Ayant remarqué, dès son entrée, la beauté d'Avdotia Romanovna, il s'efforçait de ne faire aucune attention à la jeune fille et s'adressait toujours exclusivement à Pulchérie Alexandrovna. Tout cela lui procurait un indicible contentement intérieur. En ce qui concernait Raskolnikov, il déclara l'avoir trouvé dans un état très satisfaisant. Selon lui, la maladie de son client était dû en partie aux mauvaises conditions matérielles dans lesquelles celui-ci avait vécu depuis plusieurs mois.
mais elle avait aussi d'autres causes d'un caractère moral. C'était, pour ainsi dire, le produit complexe d'influences multiples, soit physiques, soit psychologiques, telles que préoccupations, soucis, craintes, inquiétudes, rêveries, etc. S'étant aperçue, sans en avoir l'air, qu'Avdotia Romanovna l'écoutait avec une attention marquée, Zosimov s'étendit complaisamment sur ce thème. Comme Pulcheria Alexandrovna lui demandait d'une voix timide et inquiète s'il n'avait pas remarqué quelques symptômes de folie chez son fils, il répondit avec un calme et franc sourire qu'on avait fort exagéré la portée de ses paroles, que sans doute on pouvait constater chez le malade une idée fixe, quelque chose comme une monomanie, d'autant plus que lui, Zosimov, étudiait maintenant d'une façon spéciale cette branche si intéressante de la médecine. Mais, ajouta-t-il, il faut considérer que jusqu'à ce jour, le malade a eu presque continuellement le délire, et assurément, l'arrivée de sa famille sera une distraction pour lui, contribuera à lui rendre des forces, et exercera une action salutaire, si toutefois on peut lui éviter de nouvelles secousses, acheva-t-il d'un ton significatif. Puis il se leva, et après avoir salué d'une façon à la fois cérémonieuse et cordiale, il sortit au milieu des actions de grâce, des bénédictions, des effusions de reconnaissance. Avdotia Romanovna lui tendit même sa petite main, qu'il n'avait nullement cherché à serrer. Bref, le docteur se retira enchanté de sa visite et encore plus de lui-même. « Demain nous causerons. Maintenant, couchez-vous tout de suite. Il est temps que vous preniez du repos. » ordonna Razoumikine, qui sortit avec Zosimov. « Demain, à la première heure, je viendrai vous donner des nouvelles. » « Quelle ravissante jeune fille, tout de même, que cette Avdotia Romanovna !» observa avec l'accent le plus sincère Zosimov quand tous deux furent dans la rue. « Ravissante ? Tu as dit ravissante ?» hurla Razoumikine, et s'élançant sur le docteur, il le prit à la gorge. « Si tu oses jamais, comprends-tu ? Comprends-tu » cria-t-il, tandis qu'il le tenait par le collet et le poussait contre le mur. « Tu as entendu ?»« Mais laisse-moi donc, diable d'ivrogne !» fit Zosimov en essayant de se dégager. Puis, quand Razoumikine l'eut lâché, il le regarda fixement et partit soudain d'un éclat de rire. L'étudiant restait debout devant lui, les bras ballants, sa figure s'était rembrunie. « Naturellement, je suis un âne, » dit-il d'un air sombre. « Mais toi aussi, tu en es un. » « Non, mon ami, je n'en suis pas un. Je ne rêve pas à des bêtises. » Ils continuèrent leur route sans se rien dire, et ce fut seulement quand ils arrivèrent près de la demeure de Kaskolnikov que Razoumikine, très préoccupé, rompit le silence. « Écoute, » dit-il à Zosimov, « tu es un excellent garçon, mais tu possèdes une jolie collection de vices. Tu es notamment un voluptueux, un ignoble sybarite. Tu aimes tes aises, tu engraisses, tu ne sais rien te refuser. Or, je dis que cela est ignoble parce que cela mène droit à des saletés. Efféminé comme tu l'es, je ne comprends même pas comment tu peux être néanmoins un bon médecin, et même un médecin dévoué. Il couche sur la plume, un docteur, et il se relève la nuit pour aller voir un malade. Dans 3 ans, on aura beau sonner à ta porte, tu ne quitteras pas ton lit. Mais il ne s'agit pas de cela. Voici ce que je voulais te dire. Je vais coucher dans la cuisine, et toi, tu passeras la nuit dans l'appartement de la logeuse. J'ai réussi, non sans peine, à obtenir son consentement. Ce sera une occasion pour toi de faire plus intimement connaissance avec elle. Ce n'est pas ce que tu penses. Ici, mon ami, il n'y a pas ombre de cela. Mais je ne pense rien du tout. C'est, mon ami, une créature pudique, silencieuse, timide, d'une chasteté à toute épreuve. Et avec cela, si sensible, si tendre, débarrasse-moi d'elle, je t'en supplie, par tous les diables. Elle est très avenante, mais à présent, j'en ai assez. Je demande un remplaçant. »
Zosimov se mit à rire de plus belle.
« On voit bien que tu ne t'es pas ménagé. Tu ne sais plus ce que tu dis. Mais pourquoi lui ferais-je la cour ?»«
Je t'assure que tu n'auras pas de peine à gagner ses bonnes grâces. Tu n'as qu'à bavarder n'importe sur quoi. Il suffit que tu t'asseyes près d'elle et que tu lui parles. De plus, tu es médecin. Commence par la guérir de quelque chose. Je te jure que tu n'auras pas à t'en repentir. Elle a un clavecin. Moi, tu sais, je chante un peu. Je lui ai chanté une petite chanson russe. Je pleure à chaudes larmes. Elle aime les mélodies sentimentales. Eh bien, cela a été le point de départ. Mais toi, tu es un maître sur le piano, un virtuose de la force de Rubinstein. Je t'assure que tu ne le regretteras pas.
Mais à quoi cela me mènera-t-il?
Il paraît que je ne sais pas me faire comprendre. Vois-tu, vous vous convenez à merveille l'un à l'autre. Ce n'est pas d'aujourd'hui seulement que j'ai pensé à toi. Puisque tu finiras par là, qu'importe pour toi que ce soit plus tôt ou plus tard. Ici, mon ami, tu auras le lit de plume et mieux encore. Tu trouveras le port, le refuge, la fin des agitations, de bons blines, de savoureux pâtés de poisson, le samovar du soir, la bassinoire pour la nuit. Tu seras comme un mort et cependant tu vivras. Double avantage. Mais trêve de bavardage, il est temps de se coucher. Écoute, il m'arrive parfois de m'éveiller la nuit. En ce cas, j'irai voir comment va Rodion. Si tu m'entends monter, ne t'inquiète pas. Si le cœur t'en dit, tu peux aussi l'aller voir une petite fois. Dans le cas où tu remarquerais chez lui quelque chose d'insolite, il faudrait aussi m'éveiller. Du reste, je crois bien que ce ne sera pas nécessaire.
Chapitre 2. Le lendemain, à 7 heures passées, Razoumikhine se réveilla en proie à des soucis qui, jusqu'alors, n'avaient jamais troublé son existence. Il se rappela tous les incidents de la soirée et comprit qu'il avait subi une impression bien différente de toutes celles qu'il avait pu éprouver précédemment. Il sentait, en même temps, que le rêve qui avait traversé sa tête était irréalisable au plus haut point. Cette chimère lui parut même tellement absurde qu'il eut honte d'y songer. Aussi se hâta-t-il de passer aux autres questions, plus pratiques celles-ci, que lui avaient en quelque sorte légué la maudite journée de la veille. Ce qui le désolait le plus, c'était de s'être montré hier sous les dehors d'un « goujat ». Non seulement on l'avait vu ivre, mais de plus, abusant de l'avantage que sa position de bienfaiteur lui donnait sur une jeune fille obligée d'avoir recours à lui. Il avait vilipendé par un sentiment de sotte et subite jalousie le prétendu de cette jeune fille, sans savoir quelle relation existait entre elle et lui, ni même ce qu'était au juste ce monsieur. Quel droit avait-il de juger si témérairement Pierre Petrovitch? Et qui lui demandait son avis? D'ailleurs, est-ce qu'une créature telle qu'Avdotia Romanovna pouvait épouser par intérêt un homme indigne d'elle? Donc, Pierre Petrovitch devait avoir du mérite. Il y avait bien la question du logement, mais comment pouvait-il savoir ce qu'était cette maison? Du reste, ces dames ne se trouvaient là que provisoirement, on leur préparait une autre demeure. Oh, que tout cela était misérable! Et pouvait-il se justifier en alléguant son ivresse? Cette sotte excuse ne faisait que l'avilir davantage. La vérité est dans le vin, et voilà que sous l'influence du vin, il avait révélé toute la vérité, c'est-à-dire la bassesse d'un cœur grossièrement jaloux. Est-ce qu'un tel rêve lui était le moins du monde permis à lui, Razoumikhine? Qu'était-il comparé à cette jeune fille, lui, l'ivrogne hâbleur et brutal d'hier? Quoi de plus odieux et de plus ridicule à la fois que l'idée d'un rapprochement entre deux êtres si dissemblables? Le jeune homme, déjà tout honteux d'une pensée si folle, se rappela soudain avoir dit la veille, sur l'escalier, que la logeuse l'aimait et qu'elle serait jalouse d'Avdotia Romanovna. Ce souvenir arriva juste à point pour mettre le comble à sa confusion. C'en était trop. Il déchargea un grand coup de poing sur le poêle de la cuisine, se fit mal à la main et cassa une brique. « Sans doute, » murmura-t-il au bout d'une minute, avec un sentiment de profonde humiliation. « Sans doute, à présent, en effet, il n'y a pas moyen d'effacer toutes ces turpitudes. Inutile donc de penser à cela. Je me présenterai sans rien dire, je m'acquitterai silencieusement de ma tâche et je ne ferai pas d'excuses, je ne dirai rien. Maintenant, il est trop tard, le mal est fait. » Toutefois, il apporta un soin particulier à sa mise. Il n'avait qu'un seul costume, et lors même qu'il en eût possédé plusieurs, peut-être eût-il néanmoins conservé celui de la veille, pour n'avoir pas l'air de faire toilette exprès. Cependant, une malpropreté cynique aurait été du plus mauvais goût. Il n'avait pas le droit de blesser les sentiments d'autrui, alors surtout que dans l'espèce, il s'agissait de gens qui avaient besoin de lui et l'avaient eux-mêmes prié de venir les voir. En conséquence, il brossa soigneusement ses habits. Quant au linge, Razoumikine n'en pouvait souffrir que du propre sur sa personne. Ayant trouvé du savon chez Nastasia, il procéda consciencieusement à ses ablutions. Se lava les cheveux, le cou et particulièrement les mains. Quand le moment fut venu de décider s'il se ferait la barbe, Praskovie Pavlovna possédait d'excellents rasoirs, héritage de son défunt mari, M. Zarnidzin. Il résolut la question négativement, et même avec une sorte de brusquerie irritée. « Non, se dit-il, je resterai comme je suis là. Elle se figurerait peut-être que je me suis rasé pour... jamais de la vie. » Ces monologues furent interrompus par l'arrivée de Zosimov. Après avoir passé la nuit dans l'appartement de Praskovie Pavlovna, le docteur était rentré pour un instant chez lui, et maintenant il revenait visiter le malade. Razoumikine lui apprit que Raskolnikov dormait comme une marmotte. Zosimov défendit qu'on l'éveillât et promit de revenir entre 10 et 11 heures. « Pourvu toutefois qu'il soit chez lui !» ajouta-t-il. « Avec un client si sujet aux fugues, on ne peut compter sur rien. Sais-tu s'il doit aller chez elle, ou si elles viendront ici ?»« Je présume qu'elles viendront, » répondit Razoumikine, comprenant pourquoi cette question lui était adressée. « Ils auront sans doute à s'entretenir de leurs affaires de famille. Je m'en irai. Toi, en ta qualité de médecin, tu as naturellement plus de droits que moi. » « Je ne suis pas un confesseur. D'ailleurs, j'ai autre chose à faire que d'écouter leurs secrets. Je m'en irai aussi. » « Une chose m'inquiète, » reprit Razoumikine en fronçant le sourcil. « Hier, j'étais ivre, et tandis que je reconduisais Rodion ici, je n'ai pas su retenir ma langue. Entre autres sottises, je lui ai dit que tu craignais chez lui une prédisposition à la folie. » « Tu as dit la même chose hier aux dames. » « Je sais que j'ai fait une bêtise. Bats-moi, si tu veux. Mais entre nous, sincèrement, quelle est ton opinion sur son compte ?»« Que veux-tu que je te dise? Toi-même, tu me l'as représenté comme un monomane quand tu m'as amené auprès de lui. Et hier, nous lui avons encore plus troublé l'esprit. Je dis « nous », mais c'est toi qui as fait cela avec tes récits à propos du peintre en bâtiment. » Voilà une belle conversation à tenir devant un homme dont le dérangement intellectuel vient peut-être de cette affaire. Si j'avais connu alors dans tous ces détails la scène qui s'est passée au bureau de police, si j'avais su qu'il s'était vu là en butte aux soupçons d'une canaille, je t'aurais arrêté hier au premier mot. Ces monomanes font un océan d'une goutte d'eau. Les billevesées de leur imagination leur apparaissent comme des réalités. La moitié de la chose m'est expliquée maintenant par ce que Zametov nous a raconté à ta soirée. À propos, ce Zametov est un charmant garçon. Seulement, il a eu tort hier de dire tout cela.
c'est un terrible bavard. »
Mais à qui donc a-t-il fait ce récit? À toi et à moi. »
Et à Porphyre. »
Eh bien, qu'importe qu'il ait raconté cela à Porphyre.
Pendant que j'y pense, tu as quelque influence sur la mère et la sœur? Elles feront bien d'être circonspectes avec lui aujourd'hui. »
Je le leur dirai, répondit d'un air contrarié Razoumikine.
Au revoir. Remercie de ma part Praskovie Pavlovna pour son hospitalité. Elle s'est enfermée dans sa chambre, je lui ai crié « Bonjour » à travers la porte, et elle n'a pas répondu. Cependant, elle est levée depuis 7 heures. J'ai vu dans le corridor qu'on lui portait son samovar de la cuisine. Elle n'a pas daigné m'admettre en sa présence. »
À 9 heures précises, Razoumikine arrivait à la maison Bakaliev. Les deux dames l'attendaient depuis longtemps avec une impatience fiévreuse. Elle s'était levée avant 7 heures. Il entra, sombre comme la nuit, salua sans grâce et aussitôt après s'en voulut amèrement de s'être présenté de la sorte. Il avait compté sans son hôte. Pulchérie Alexandrovna courut immédiatement à sa rencontre, lui prit les deux mains et pour un peu les aurait baisées. Le jeune homme regarda timidement Avdotia Romanovna, mais au lieu des airs moqueurs, du dédain involontaire et mal dissimulé qu'il s'attendait à rencontrer sur ce fier visage, il y vit une telle expression de reconnaissance et d'affectueuse sympathie que sa confusion ne connut plus de bornes. Il aurait été moins gêné à coup sûr si on l'avait accueilli avec des reproches. Par bonheur, il avait un sujet de conversation tout indiqué, et il l'aborda au plus vite. En apprenant que son fils n'était pas encore éveillé, mais que son état ne laissait rien à désirer, Pulchérie Alexandrovna déclara que c'était pour le mieux, parce qu'elle avait grand besoin de conférer au préalable avec Razoumikine. La mère et la fille demandèrent ensuite au visiteur s'il avait déjà pris son thé, et sur sa réponse négative, l'invitèrent à le prendre avec elles, car elles avaient attendu son arrivée pour se mettre à table. Avdotia Romanovna agita la sonnette. À cet appel se montra un domestique déguenillé. On lui ordonna d'apporter le thé, qui fut enfin servi, mais d'une façon si peu convenable et si malpropre que les deux dames se sentirent toutes honteuses. Razoumikine pesta énergiquement contre une pareille boîte. Puis, pensant à Lougine, il se tut, perdit contenance et fut fort heureux d'échapper à sa situation embarrassante grâce aux questions que Pulchérie Alexandrovna fit pleuvoir sur lui, dru comme grêle. Interrogé à chaque instant, il parla pendant 3 quarts d'heure et raconta tout ce qu'il savait concernant les principaux faits qui avaient rempli la vie de Rodion Romanovitch depuis 1 année. Il termina par le récit circonstancié de la maladie de son ami. Comme de juste, d'ailleurs, il passa sous silence ce qu'il fallait taire. Par exemple, la scène du commissariat et ses conséquences. Les deux femmes l'écoutaient avidement, et lorsqu'il crut leur avoir donné tous les détails susceptibles de les intéresser, leur curiosité ne se tint pas encore pour satisfaite.
« Dites-moi, dites-moi, comment pensez-vous ?»«
Ah, pardon, je ne sais pas encore votre nom !» fit vivement Pulchérie Alexandrovna.
« Dmitri Prokofitch. »«
Eh bien, Dmitri Prokofitch, j'aurais grande envie de savoir comment, en général, il envisage maintenant les choses, ou, pour mieux m'exprimer, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Est-il toujours si irritable? Quels sont ses désirs, ses rêves, si vous voulez? Sous quelle influence particulière se trouve-t-il en ce moment? »
Que vous dirais-je? Je connais Rodion depuis 18 mois. Il est morose, sombre, fier et hautain. Dans ces derniers temps, mais peut-être cette disposition existait-elle chez lui d'ancienne date. Il est devenu soupçonneux et hypochondriaque. Il est bon et généreux, il n'aime pas à révéler ses sentiments, et il lui en coûte moins de blesser les gens que de se montrer expansif.
Parfois, du reste, il n'est pas du tout hypochondriaque, mais seulement froid et insensible jusqu'à l'inhumanité. On dirait vraiment qu'il y a en lui deux caractères opposés qui se manifestent tour à tour. À de certains moments, il est d'une taciturnité extrême. Tout lui est à charge, tout le monde le dérange, et il reste couché sans rien faire. Il n'est pas moqueur, donc son esprit manque de causticité, mais plutôt parce qu'il dédaigne le persiflage comme un passe-temps trop frivole. Il n'écoute pas jusqu'au bout tout ce qu'on lui dit. Jamais il ne s'intéresse aux choses qui, à un moment donné, intéressent tout le monde. Il a une très haute opinion de lui-même, et je crois qu'en cela il n'a pas tout à fait tort. Qu'ajouterais-je ? Il me semble que votre arrivée exercera une action des plus salutaires sur lui. « Ah, Dieu le veuille !» s'écria Pulcheria Alexandrovna, fort inquiétée par ses révélations sur le caractère de son Rodia. À la fin, Razoumikine osa regarder un peu plus hardiment Avdotia Komanovna. Pendant qu'il parlait, il l'avait souvent examinée, mais à la dérobée, en détournant aussitôt les yeux. Tantôt la jeune fille s'asseyait près de la table et écoutait attentivement. Tantôt elle se levait et, selon sa coutume, se promenait de long en large dans la chambre, les bras croisés, les lèvres serrées, faisant de temps à autre une question sans interrompre sa marche. Elle avait aussi l'habitude de ne pas écouter jusqu'au bout ce qu'on disait. Elle portait une robe légère d'une étoffe foncée et avait un petit fichu blanc autour du cou. À divers indices, Razoumikine reconnut vite que les deux femmes étaient très pauvres. Si Avdotia Romanovna avait été mise comme une reine, il est probable qu'elle ne l'aurait nullement intimidée. Maintenant, peut-être par cela même qu'elle était fort pauvrement vêtue, il éprouvait une grande crainte vis-à-vis d'elle et surveillait avec un soin extrême chacune de ses expressions, chacun de ses gestes, ce qui, naturellement, ajoutait encore à la gêne d'un homme déjà peu sûr de lui. « Vous avez donné beaucoup de détails curieux sur le caractère de mon frère, et vous les avez donnés impartialement. C'est bien. Je pensais que vous étiez en admiration devant lui, » observa Avdotia Romanovna avec un sourire. « Je crois qu'il doit y avoir une femme dans son existence. » ajouta-t-elle rêveuse. « Je n'ai pas dit cela, mais il se peut que vous ayez raison. Seulement... Quoi ? Il n'aime personne. Peut-être même n'aimera-t-il jamais, » reprit Razoumikine. « C'est-à-dire qu'il est incapable d'aimer ? Mais savez-vous, Avdotia Romanovna, que vous-même, vous ressemblez terriblement à votre frère, je dirais même sous tous les rapports. » Lâcha étourdiment le jeune homme. Puis il se rappela soudain le jugement qu'il venait de porter sur Raskolnikov, se troubla et devint rouge comme une écrevisse. Avdotia Romanovna ne put s'empêcher de sourire en le regardant. « Vous pourriez bien vous tromper tous deux sur le compte de Rodia, » remarqua Pulcheria Alexandrovna un peu piquée. « Je ne parle pas du présent, Dounetchka. Ce que Pierre Petrovitch écrit dans cette lettre, et ce que nous avons supposé, toi et moi, peut-être n'est pas vrai, mais vous ne sauriez vous imaginer, Dmitri Prokofitch, combien il est fantasque et capricieux. Même quand il n'avait que 15 ans, son caractère était pour moi une surprise continuelle. Maintenant encore, je le crois capable de faire tel coup de tête qui ne viendrait à l'esprit d'aucun autre homme. Sans aller plus loin, savez-vous qu'il y a 18 mois, il a failli causer ma mort, quand il s'est avisé de vouloir épouser cette... la fille de cette dame Zarnidzine, sa logeuse. Connaissez-vous les détails de cette histoire ? Demanda Avdotia Romanovna. Vous croyez, poursuivit la mère avec animation, qu'il aurait eu égard à mes supplications, à mes larmes ? Que ma maladie, la crainte de me voir mourir, notre misère l'aurait touché ? Non, il eut le plus tranquillement du monde donné suite à son projet, sans se laisser arrêter par aucune considération. Et pourtant, se peut-il qu'il ne nous aime pas ?
Lui-même ne m'a jamais rien dit à ce propos, répondit avec réserve Razoumikine.
Mais j'ai eu quelques connaissances de cela par Madame Zarnidzine, qui n'est pas non plus très causeuse, et ce que j'ai appris ne laisse pas d'être assez étrange.
Eh bien, qu'avez-vous appris ?
Demandèrent d'une commune voix les deux femmes.
Oh, rien de particulièrement intéressant, à vrai dire. Tout ce que je sais, c'est que ce mariage, qui était déjà une affaire convenue et qui allait avoir lieu quand la future est morte, déplaisait extrêmement à Madame Zarnidzine elle-même. D'autre part, on prétend que la jeune fille n'était pas belle, ou pour mieux dire, qu'elle était laide. De plus, elle était, dit-on, fort maladive et bizarre. Cependant, il paraît qu'elle avait certaines qualités. Elle devait à coup sûr en avoir, autrement ce serait à n'y rien comprendre.
Je suis convaincue que cette jeune fille avait du mérite,
observa laconiquement Avdotia Romanovna.
Que Dieu me le pardonne, mais je me suis réjouie de sa mort. Et pourtant je ne sais auquel des deux de ce mariage aurait été le plus funeste, conclut la mère.
Puis, timidement, après force hésitation, et en jetant sans cesse les yeux sur Dounia, à ce qui ce manège paraissait déplaire beaucoup. Elle se mit à interroger de nouveau Razoumikine sur la scène de la veille entre Rodia et Lougine. Cet incident semblait l'inquiéter par-dessus tout et lui causait une véritable épouvante. Le jeune homme refit le récit détaillé de l'altercation dont il avait été témoin, mais en y ajoutant cette fois sa conclusion. Il accusa ouvertement Raskolnikov d'avoir insulté de propos délibérés Pierre Petrovitch, et n'invoqua plus guère la maladie pour excuser la conduite de son ami.
Avant qu'il fût malade, il avait déjà prémédité cela, acheva-t-il.
Je le pense aussi, dit Pulchérie Alexandrovna, la consternation peinte sur le visage.
Mais elle fut très surprise de voir que cette fois, Razoumikine avait parlé de Pierre Petrovitch dans les termes les plus convenables, et même avec une sorte d'estime. Cela frappa également Avdotia Romanovna.
Ainsi, telle est votre opinion sur Pierre Petrovitch ?
Ne put s'empêcher de demander Pulchérie Alexandrovna.
Je ne puis en avoir une autre sur le futur mari de votre fille,
répondit d'un ton ferme et chaleureux Razoumikine. Et ce n'est point une politesse banale qui me fait parler ainsi. Je dis cela parce que... Eh bien, il suffit que cet homme soit celui qu'Avdotia Romanovna elle-même a librement honoré de son choix. Si hier je me suis exprimée en termes injurieux sur son compte, c'est que hier j'étais abominablement ivre, et de plus, insensé. Oui, insensé. J'avais perdu la tête, j'étais complètement fou. Et aujourd'hui, j'en suis honteux. Il rougit et se tut. Les joues d'Avdotia Romanovna se colorèrent, mais elle resta silencieuse. Depuis qu'il était question de Lougine, elle n'avait pas dit un mot. Cependant, privée du secours de sa fille, Pulchérie Alexandrovna se trouvait dans un embarras visible. À la fin, elle prit la parole d'une voix hésitante et, levant à chaque instant les yeux vers Dounia, elle dit qu'une circonstance, en ce moment, la préoccupait au plus haut point.
« Voyez-vous, Dmitri Prokofitch, commença-t-elle, je serai tout à fait franche avec Dmitri Prokofitch. Dounetchka.
Sans doute, maman. »
répondit d'un ton d'autorité Avdotia Romanovna.
Voici de quoi il s'agit, se hâta de dire la mère, comme si l'on eût ôté une montagne de dessus sa poitrine en lui permettant de communiquer son chagrin. Ce matin, à la première heure, nous avons reçu une lettre de Pierre Petrovitch, en réponse à celle que nous lui avions écrite hier pour lui faire part de notre arrivée. Voyez-vous,
il devait venir hier nous chercher à la gare, comme il l'avait promis. À sa place, nous avons trouvé, au chemin de fer, un domestique qui nous a conduites ici et nous a annoncé pour ce matin la visite de son maître. Or, voici qu'au lieu de venir, Pierre Petrovitch nous a adressé ce billet. Le mieux est que vous le lisiez vous-même. Il y a là un point qui m'inquiète fort. Vous verrez tout de suite vous-même quel est ce point, et vous me direz franchement votre avis, Dmitri Prokotitch. Vous connaissez mieux que personne le caractère de Rodia, et mieux que personne vous pourrez nous conseiller. Je vous préviens que Dounetchka a, du premier coup, décidé la question. Mais moi, je ne sais encore quel parti prendre, et je vous attendais toujours. » Razoumikine déplia la lettre, datée de la veille, et lut ce qui suit. « Madame Pulcheri Alexandrovna, j'ai l'honneur de vous informer que des empêchements imprévus ne m'ont pas permis d'aller à votre rencontre au chemin de fer. C'est pourquoi je me suis fait remplacer par un homme sûr. Les affaires que je suis au Sénat me priveront également de l'honneur de vous voir demain matin. D'ailleurs, je ne veux pas gêner votre entrevue maternelle avec votre fils, ni celle d'Avdotia Romanovna avec son frère. C'est donc seulement à 8 heures précises du soir que j'aurai l'honneur d'aller vous saluer demain dans votre logement. Je vous prie instamment de vouloir bien m'épargner, durant cette entrevue, la présence de Rodion Romanovitch, car il m'a insulté de la façon la plus grossière lors de la visite que je lui ai faite hier pendant qu'il était malade. Indépendamment de cela, je tiens à avoir avec vous une explication personnelle au sujet d'un point que nous n'interprétons peut-être pas de la même manière l'un et l'autre. J'ai l'honneur de vous prévenir d'avance que si, malgré mon désir formellement exprimé, je rencontre chez vous Rodion Romanovitch, je serai forcé de me retirer sur le champ, et alors vous n'aurez à vous en prendre qu'à vous-même. Je vous écris ceci, ayant lieu de croire que Rodion Romanovitch, qui paraissait si malade lors de ma visite, a soudain recouvré la santé 2 heures après, et peut par conséquent aller chez vous. Hier, en effet, je l'ai vu de mes propres yeux dans le logement d'un ivrogne qui venait d'être écrasé par une voiture. Sous prétexte de payer les funérailles, il a donné 25 roubles à la fille du défunt, jeune personne d'une inconduite notoire. Cela m'a fort étonné, car je sais au prix de quelle peine vous vous étiez procuré cette somme. Sur ce, je vous prie de transmettre mes hommages empressés à l'honorée Avdotia Komanovna, et de souffrir que je me dise, avec un respectueux dévouement, votre obéissant serviteur. P. Loujine.
Que faire maintenant, Dmitri Prokofitch ? Demanda Pulcheri Alexandrovna, qui avait presque les larmes aux yeux. Comment dire à Rodia de ne pas venir ? Hier, il insistait si vivement pour qu'on donne un congé à Pierre Petrovitch, et voilà qu'à présent, c'est lui-même qu'il m'est défendu de recevoir. Mais il est dans le cas de venir exprès dès qu'il saura cela, et qu'arrivera-t-il alors ?
Suivez l'avis d'Avdotia Romanovna, répondit tranquillement et sans la moindre hésitation Razoumikine.
Ah, mon Dieu, elle dit... Dieu sait ce qu'elle dit. Elle ne m'explique pas son but. Selon elle, il vaut mieux, ou plutôt, il est absolument indispensable que Rodia vienne ce soir à 8 heures et qu'il se rencontre ici avec Pierre Petrovitch. Moi, je préférerais ne pas lui montrer la lettre et user d'adresse pour l'empêcher de venir. Je comptais y réussir avec votre concours. Je ne vois pas non plus de quel ivrogne mort et de quelle fille il peut être question dans ce billet. Je ne puis comprendre qu'il ait donné à cette personne les dernières pièces d'argent qui représentent pour vous tant de sacrifices, maman, acheva la jeune fille. Hier, il n'était pas dans son état normal, dit d'un air pensif Razoumikine. Si vous saviez à quel passe-temps il s'est livré hier dans un traktir. Du reste, il a fort bien fait. Il m'a en effet parlé hier d'un mort et d'une jeune fille pendant que je le reconduisais chez lui, mais je n'ai pas compris un mot. Il est vrai que hier j'étais moi-même. Le mieux, maman, c'est d'aller chez lui. Et là, je vous assure, nous verrons tout de suite ce qu'il y a à faire. D'ailleurs, il est temps, Seigneur, 10 heures passées, s'écria Avdotia Romanovna en regardant une superbe montre en or émaillé qui était suspendue à son cou par une mince chaîne de Venise et qui jurait singulièrement avec l'ensemble de sa toilette.
« C'est un cadeau de son prétendu, » pensa Razoumikine.
Ah, il est temps de partir. Il est grand temps, Dounetchka, » fit Pulchérie Alexandrovna tout effarée. « Il va penser que nous lui gardons rancune de son accueil d'hier. C'est ainsi qu'il s'expliquera notre retard. Ah, mon Dieu !» Tout en parlant, elle se hâtait de mettre son chapeau et sa mantille. Dounetchka se préparait aussi à sortir. Ses gants étaient non seulement défraîchis, mais troués, ce que remarqua Razoumikine. Toutefois, ce costume dont la pauvreté sautait aux yeux donnait aux deux dames un cachet particulier de dignité, comme il arrive toujours aux femmes qui savent porter d'humbles vêtements. « Mon Dieu !» s'écria Pulchérie Alexandrovna. « Aurais-je jamais cru que je redouterais tant une entrevue avec mon fils, avec mon cher Rodia ?» « J'ai peur, Dmitri Prokofitch, » ajouta-t-elle en regardant timidement le jeune homme.
« Ne craignez pas, maman, » dit Dounia en embrassant sa mère. « Croyez plutôt en lui. Moi, j'ai confiance. »«
Ah, mon Dieu, moi aussi. Et pourtant, je n'ai pas dormi de la nuit, » reprit la pauvre femme. Tous trois sortirent de la maison. « Sais-tu, Dounetchka, que ce matin, au point du jour, je venais seulement de m'assoupir quand j'ai vu en songe la défunte Marfa Petrovna. Elle était toute vêtue de blanc. Ah, mon Dieu, Dmitri Prokofitch, vous ne savez pas encore que Marfa Petrovna est morte.
Non, je ne le savais pas. Quelle Marfa Petrovna?
Elle est morte subitement, et figurez-vous...
Plus tard, maman, intervint Dounia. Il ne sait pas encore de quelle Marfa Petrovna il s'agit.
Hein? Vous ne la connaissez pas? Je pensais vous avoir déjà tout dit.
Excusez-moi, Dmitri Prokofitch. J'ai l'esprit si bouleversé depuis 2 jours.
Je vous considère comme notre providence. Voilà pourquoi j'étais persuadée que vous étiez déjà au courant de toutes nos affaires. Je vous regarde comme un parent. Ne vous fâchez pas de ce que je vous dis. Ah, mon Dieu, qu'avez-vous donc à la main? Vous vous êtes blessé?
Oui, je me suis blessé, murmura Razoumikine, tout heureux.
Je suis quelquefois trop expansive, et Dounia m'en fait des reproches. Mais mon Dieu, dans quel trou il habite! Pourvu seulement qu'il soit éveillé. Et cette femme, sa logeuse, appelle cela une chambre? Écoutez, vous dites qu'il n'aime pas à ouvrir son cœur. Il se peut donc que je l'ennuie avec mes faiblesses. Ne me donnerez-vous pas quelques indications, Dmitri Prokofitch? Comment dois-je me comporter avec lui? Vous savez, je suis toute désorientée.
Ne l'interrogez pas trop, si vous voyez qu'il fronce le sourcil. Évitez surtout de multiplier les questions relatives à sa santé. Il n'aime pas cela.
Ah, Dmitri Prokofitch, que la position d'une mère est parfois pénible. Mais voilà encore cet escalier. Quel affreux escalier!
Maman, vous êtes pâle. Calmez-vous, ma chérie, dit Dounia en caressant sa mère.
Pourquoi vous tourmenter ainsi, quand ce doit être pour lui un bonheur de vous voir?
Ajouta-t-elle avec un éclair dans les yeux.
Attendez, je vous précède pour m'assurer s'il est éveillé.
Razoumikine ayant pris les devants, les dames montèrent tout doucement l'escalier après lui. Arrivées au 4e étage, elles remarquèrent que la porte de la logeuse était entrebâillée et que par l'étroite ouverture, 2 yeux noirs et perçants les observaient. Quand les regards se rencontrèrent, la porte se referma soudain avec un tel bruit que Pulchérie Alexandrovna faillit pousser un cri d'effroi.